Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je reçois Fred Eggington, le metteur en scène de la pièce Lune Jaune qui se jouera les 3 et 4 février à Amiens. Il est accompagné par deux comédiens, Valentine Loquet et Julien Tuillier, qui incarnent Leila et Lee, les deux adolescents en perdition qui vous emmèneront en road trip le temps d'une pièce. Bonjour.
Bonjour.
Bien le bonjour.
Pouvons-nous commencer par une petite présentation ?
Alors, bonjour, Fred Eggington, comédien, metteur en scène. Je suis à l'origine de la compagnie Cabaret Grabuge, voilà, que j'ai montée il y a maintenant une douzaine d'années avec des étudiants qui se sont professionnalisés, qui ont été se former, qui m'ont ramené des copains, et maintenant on est une grande et belle troupe.
Bonjour, moi du coup je m'appelle Valentine, je suis comédienne. Je suis rentrée à Grabuge aussi par l'intermédiaire de la troupe universitaire. Et en ce moment, je suis en train de monter mon intermittence. Voilà.
Bon, moi, c'est Julien. Je suis comédien aussi. Voilà, j'évolue dans le cabaret Grabuge depuis un petit peu de temps maintenant. Et au Théâtre Charnière aussi, qui est une compagnie assez très proche, on va dire, presque sœur ou tante, ou je ne sais pas trop. Et du coup, dans ces compagnies-là, voilà, j'essaye de faire mon trou un peu où c'est possible.
Et justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la création du cabaret Grabuge ?
Oui, oui.
D'où ça part, exactement ?
Ça part, en fait, ça part d'un atelier. Moi, j'étais intervenant à la fac d'art, d'un atelier où on a travaillé autour de la demande en mariage de Tchekhov, et avec énormément de plaisir. Et on s'est tellement fait plaisir à travailler dessus qu'on s'est dit, allez, on le monte jusqu'au bout, on en fait un vrai objet de spectacle et à montrer. On l'a montré, ça, on a eu des bons retours. On se sentait bien ensemble avec les étudiants. Moi, j'ai un peu essayé de lâcher ma casquette d'intervenant. Voilà, on s'est dit, bon, allez, chiche, on remonte une énième compagnie, ce qui a fait un peu ruer un peu dans les brancards pour certains en disant, mais pourquoi tu fais encore une compagnie ? Moi, j'interviens déjà effectivement au Théâtre Charnière, au Bénart aussi, voilà. Mais c'était un projet bien spécifique, avec une volonté de transmission et d'emmener les gens vers de la professionnalisation. Donc, comme c'était un projet spécifique, on a monté une troupe spécifique. Voilà.
Et vous deux, pourquoi vous êtes arrivés dans cette troupe ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ou l'opportunité ?
Moi, j'avais vu les bacchantes du cabaret Grabuge quand j'étais encore au lycée, en fait. Après, j'ai débarqué à la fac en étant un peu dans le Schwartz, quoi, sur ce que j'allais entreprendre dans mon existence. Et je passais un peu de temps à Charnière, et bah, de là, à un moment, avec un autre très bon copain, Tom Camus, Fred est venu nous voir et nous a demandé de rejoindre Grabuge pour Dunsinane, qu'on joue aussi un mois après Lune Jaune, là, au mois de mars, à la Comme de Pique. Voilà, c'est une pièce où il y a énormément de monde dessus, il y a besoin de monde. Fred nous a proposé, et aussi pour une petite forme, enfin une espèce de cabaret qu'on avait joué dans le cadre du Festivart, je sais plus en quelle année.
Il y a 2019, avant quoi ? Avant le bazar ?
Ouais, dans tous les cas, avant la dystopie, quoi. Et du coup, voilà, en fait, ça s'est fait assez simplement. Fred, je le voyais de loin, il venait intervenir au lycée. Moi, j'étais pas au théâtre, mais j'avais des copains au théâtre. Et ça s'est passé assez fluidement, quoi.
Ok. Et toi, Valentine ?
Et moi, du coup, j'aurais tendance à dire que c'était un bon concours de circonstances, parce que du coup, je venais de prendre la décision de me professionnaliser, d'arrêter mes études supérieures et de me lancer à fond dans le théâtre. Et il se trouve que Fred avait besoin de quelqu'un sur un spectacle longue courte vie au Grand Petit Roi, et Dunsinane aussi, et donc j'ai rejoint Grabuge à ce moment-là.
Enfin, faut dire que je te connaissais de la troupe universitaire aussi,
ouais,
et
ouais,
donc
ouais.
Voilà, c'est un vivier, quoi, enfin aussi, c'est-à-dire que la troupe universitaire, c'est un endroit aussi où moi je vois pas mal d'étudiants, avec des gens qui ont des envies plus ou moins d'aller vers le boulot, en faire leur boulot, et du coup, quand on peut à la fois filer la main, mais aussi, je dirais... ouais, enfin, c'est toujours donnant-donnant, quoi. C'est-à-dire on donne la main, et puis en même temps, on a besoin aussi de cette énergie nouvelle, jeune, et voilà, donc c'est super.
Et la pièce que vous avez mise en scène et que vous allez jouer s'intitule donc Lune jaune. Oui. C'est un road trip de deux adolescents dans une période charnière. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit teaser ?
Alors le petit teaser, je vais essayer d'être rapide et efficace. Alors, ça part d'un jeune garçon, un jeune homme qui s'appelle Lima Kalindon. Il a quoi, 17, 16, 17 ans, bon, on ne sait pas bien. C'est ce qu'on appelle un petit branleur, hein, disons franchement les choses. Tout le monde le connaît, les services sociaux le connaissent, les flics le connaissent, toute l'administration du lycée le connaît, mais ne le connaît au mauvais sens du terme, je dirais. Il a un peu une vie un peu compliquée. Il a une maman assez dépressive. Son père les a quittés quand le gamin avait 4 ans, lui laissant qu'une casquette sur laquelle il y a un cerf. Le cerf en anglais, c'est Stag. Et du coup, il est surnommé Stagly parce qu'il n'a jamais sa casquette. Et la maman est une dépressive chronique, à un tel point que quand elle est en dépression, elle boit pas mal de vodka, fume énormément de clopes et écoute en boucle une cassette de AA. Alors, pour ceux qui sont un peu d'une autre génération, ils comprennent pourquoi la mère est vraiment déprimée. Voilà. Et elle a quand même un amoureux, donc Lee a un beau-père. Le beau-père a décidé de sortir la maman de la dépression en l'épousant. Donc il achète une bague pour lui faire une magnifique déclaration. Le gamin, enfin Lee, tombe sur la bague et la revend pour acheter un peu de shit, pour fumer avec ses copains. Le beau-père s'en aperçoit, il lui demande des comptes, et Lee bute son beau-père. Alors là, j'ai l'impression d'avoir tout raconté, mais en fait, j'ai rien raconté. J'ai raconté que le tout début de la pièce. Et là-dessus intervient aussi une autre adolescente, qui est Leïla, qui est jouée par Valentine. Leïla est une petite... réfugié. Alors c'est difficile d'utiliser le mot réfugié comme on l'entend en France parce que elle est pas voilà. Ses parents sont venus de Damas à cause d'une guerre, on ne sait pas laquelle. Ce sont des médecins, enfin dentistes, médecins, donc plutôt des gens qui sont bien intégrés. C'est-à-dire qu'on n'a pas le regard un peu misérabiliste comme on peut l'avoir des fois chez nous quand on dit le mot réfugié. Cette petite, elle est plutôt, elle connue aussi, mais connue comme une bonne élève. Et un jour, elle est devant le lycée, et il y a un prof qui passe et qui lui demande « Ça va, Leïla ?» Et Leïla, c'est une fille qui a de la jugeote, qui réfléchit, elle pense que cette question-là demande une réponse un peu construite. Et elle la construit dans sa tête, mais le temps qu'elle construise sa réponse, le prof est déjà passé en disant « Oui, de toute façon, Leïla, ça va. » Et à ce moment-là, elle se rend compte que les adultes sont plus intéressés par les questions qu'ils posent que par les réponses qu'on peut leur donner. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et elle a décidé, du coup, de se taire. Donc, elle va se taire pendant une bonne partie de la... On va dire pendant le spectacle, puisque c'est Leïla la silencieuse. Et c'est très intéressant d'avoir un personnage de théâtre comme ça qui dit rien, en fait. Parce que ça, c'est à l'encontre même de ce qu'on peut penser d'un personnage de théâtre. Donc c'est... Voilà, elle ne dit rien. Mais elle va être embarquée, puisque Lee, ayant buté son beau-père, doit fuir. Il va embarquer Leïla dans sa fuite. Et une fuite à la recherche du géniteur de Lee. Voilà. Donc on va dire qu'ils sont tous les deux un peu à la recherche de modèles adultes à trouver, oui, pour se construire. Alors ils vont... Bon voilà, là maintenant on se tait.
Ouais.
Voilà. Maintenant on dit plus la suite.
Et qu'est-ce qui vous a motivé tous à retravailler ensemble sur le texte de David Gregg ? Qu'est-ce qui vous plaît tant chez cet auteur puisque vous aviez déjà travaillé sur une pièce tous les trois ?
Bah, c'est vrai que David Gregg, ça, visiblement, ça plaît à Fred, ça nous plaît aussi, puisque derrière, on dit oui direct. Et voilà, Dunsinane, c'est une pièce historique. Enfin voilà, on est sur la suite de Macbeth en fait. Greg il prend l'écriture là où Shakespeare il l'a laissé. Donc voilà, on est sur ce genre de grand décorum et les enjeux ils sont plus bah oui, ils sont beaucoup plus politiques. Là ce qui se passe avec Lune Jaune, c'est que on est dans une espèce de coquille comme ça, on a un rapport toujours entre l'intime et aussi le regard du monde extérieur un peu sur cette histoire-là, parce qu'il y a un cœur en fait qui oscille entre guider l'action et commenter l'action en fait, qui mène et puis après qui se met en retrait aussi. Et du coup il y a un truc beaucoup plus intime en fait. Là on vient parler vraiment d'autre chose et on vient aussi parler de questions assez précises qu'on commence à se poser quand on commence à avoir, je sais pas, suivant les gens, vers 13-14 piges quoi. À partir de là on commence à se dire ok, d'où je viens, je suis quoi.
Mais ça dure longtemps, hein, après. Ça, ouais. Ouais, ça, c'est des questionnements qui durent
tout le reste.
Parfois, ça reste, en fait.
Qui reste assez longtemps, ouais, ouais. Oui, moi, j'ai eu envie. En fait, une fois qu'on a monté d'une Cinéne, on a eu un peu des retours en disant ouais, c'est bien, mais est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Alors, moi, j'aurais tendance à dire oui, mais beaucoup de gens m'ont laissé entendre que ça serait bien qu'on fasse quelque chose d'un peu plus économiquement viable. voilà, parce qu'on est aussi dans un système économique, hein, faut pas s'en cacher. Il s'avère que ma compagne m'a offert à Noël un deuxième David Gregg. Moi, j'avais monté d'une Cinéne, et puis elle a trouvé ce texte qui est présenté un peu comme un jeune public. Il n'est pas réellement jeune public, ce qu'on appelle maintenant public jeune, c'est-à-dire c'est plutôt pour grands ados. Et comme un spectacle jeune public, c'est un spectacle tout public, à mon avis. Enfin, en tout cas, quand il est bien fait, c'est un spectacle pour moi tout public. Mais parce que les questions qui se posent, comme je disais, on se les pose longtemps. Et si c'est plus nos questions, nous, c'est ceux de nos enfants. Donc forcément, ça résonne quelque part. Et donc, ouais, David Gregg, j'ai eu envie de continuer un peu. C'est intéressant quand y a un auteur d'aller voir. C'est lubie, parce que en fait le théâtre, c'est enfin monter un spectacle, c'est une histoire de lubie, c'est-à-dire qu'on s'y projette tellement dedans qu'on y met aussi toutes ces petites histoires, tous ces amours et ces détestations, je dirais. Et c'était assez marrant d'aller voir avec deux pièces aussi différentes de David Gregg, d'aller chercher aussi quels sont ses amours et ses détestations. Moi, ça m'a fait... Alors, je ne pense pas qu'on refera un troisième spectacle de David Gregg, enfin, en tout cas, pas maintenant, mais qu'il y ait une suite comme ça, c'était aussi assez intéressant. Ça ne facilite pas les choses, mais ça donne un peu de piment, quoi. Enfin, voilà.
La pièce traite de sujets d'actualité et fort, donc elle comporte une importante dimension sociale. Comment vous, en tant que comédien, vous allez en rendre compte? Toi, par exemple, Valentine, puisque Leïla ne parle pas.
Comment c'est venu?
Voilà, comment c'était
Bah déjà, à la première lecture, la silencieuse, donc elle était présentée comme ça. Et quand on a commencé à travailler au plateau, on s'est vite rendu compte que si Leïla, elle avait même... Si on entendait même un petit peu sa voix par des sons, ça marchait pas du tout, quoi. Il fallait vraiment... on a pris parti, du coup, de jouer le silence à fond, et c'est ça aussi qui fait ressortir tout ce qu'elle voudrait exprimer, mais et qu'elle n'arrive pas à exprimer, justement.
Est-ce que c'était une sorte de défi pour toi?
Pas vraiment. En fait, au début, le défi, justement, c'était de trouver comment faire en sorte que Leïla soit pas éteinte malgré son silence. Enfin, moi, en tout cas, c'est les questions que je me posais sur ce personnage. Comment la faire vivre dans la pièce sans en faire trop, en fait, aussi. C'est ça, trouver la justesse avec ce silence et en même temps ce qu'elle fait et cette force qu'elle a aussi, comment la montrer autrement que par la parole et plutôt dans des prises de décision affirmé.
Valentine a fait cette proposition d'une gestuelle assez claire aussi. C'est-à-dire que les émotions ne passant pas par les mots, il faut que ça passe par le corps. Mmh. Alors, ça c'est intéressant pour aussi les comédiens et les comédiennes. C'est-à-dire on n'est pas sur le masque neutre, mais on est quand même sur un travail où le corps il doit parler, il doit être expressif. On avait effectivement essayé, parce que comme... En fait, il n'y a pas que ces deux comédiens-là. Hein. Il faut qu'on cite Julie Teuf, Anthony Resnicki, Anthony Coudeville, Émilie Revel.
Et nos musiciens.
Après. Okay. Ouais, dans les musiciens, tu sais. Enfin bon. qui, eux, vont faire jouer tous les personnages adultes. Et ils font aussi un chœur de le chœur des comédiens. Alors je vais dire que c'est brechtien, ça va faire fuir tout le monde, mais c'est bien Brecht. Un chœur un peu brechtien comme ça qui vient et qui raconte l'histoire. Et on avait essayé au début, parce que on disait ouais, Valentine, on va quand même pas la payer rien foutre quand même. On avait essayé des trucs où il fallait qu'elle prenait des parties du texte, et en fait ça fonctionnait pas du tout parce que il fallait que ce personnage soit complètement là, très présent, très... Et en fait, c'était compliqué qu'elle prenne la parole et qu'après on dise « Ah oui, mais elle est muette. » Donc, enfin, elle est silencieuse, parce qu'elle n'est pas muette, elle est silencieuse. Voilà, le chœur qui raconte n'est pris, qui joue les adultes, parce que non, en vérité, ils ne sont pas très adultes, mais ça, c'est une autre histoire. On citait aussi les comédiens, les musiciens, on a Maxime, Max Poirion, et puis Romain Mater, voilà, qui sont nos deux créateurs musique, qui font la musique et qui la jouent en direct.
Voilà. Lee et Leïla, ce sont deux portraits totalement en contraste. Comment vous souhaitez les mettre en scène? Comment vous allez rendre compte de ça?
Oh bah, c'est sur des énergies, c'est sur des costumes aussi. Il ne faut pas qu'on oublie Aline. Quand
bien
même,
sûr. Il
ne faudrait quand même pas qu'on oublie notre Aline.
La
musique qui va aussi donner les intériorités des personnages. C'est assez... Je crois qu'ils sont... À la fois, ils sont effectivement très opposés, mais en même temps, tarte à la crème, et ils sont les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire, non mais c'est assez tarte à la crème, mais en fait ça marche assez bien, et ça au théâtre ça marche très très souvent, c'est-à-dire on prend deux personnages un peu antagonistes, et puis d'un seul coup on s'aperçoit que, mais en fait c'est le complémentaire, quoi. Enfin, c'est le yin, le yang, le noir, le blanc, etc. Enfin, Et là, ça marche assez bien, et bon, alors on va pas tout dévoiler, mais quand même, enfin bon, c'est un garçon, une fille... Bien que tout soit possible et que tout soit ouvert, mais là, on est en situation théâtrale très... Tout est bien fait pour qu'à un moment, ils soient complémentaires l'un de l'autre. Voilà.
Et toi, Julien, comment tu as approché ce personnage de Lee? Quelles étaient tes premières impressions? Comment tu as voulu l'interpréter?
Bon, mes premières impressions, moi, il m'a fait marrer, ce type. Je vais reprendre les mots de Fred, ils me vont totalement. C'est vraiment l'archétype du jeune branleur, quoi, en intégralité, en fait. Et après, c'est un point de départ intéressant. J'arrive à m'éclater là-dedans aussi, quoi. Peut-être que si j'ai des zones de jeune branleur à l'intérieur de moi, ce qui facilite la tâche, peut-être. Mais ce qui est intéressant surtout là-dedans, c'est le parcours, en fait, parce qu'on a un point de départ où Lee, il est là, il s'en prend un peu plein la gueule dans sa vie, il est assez livré à lui-même, et il formule tout un tas d'idées de merde qui, en fait, au fur et à mesure de la pièce, s'effondrent les unes après les autres, parce qu'il y a la présence de Leïla aussi, et en fait, Lee, il est dans un... Il est dans une espèce de quête, c'est urgent, en fait, un peu comme truc. C'est comme s'il misait tout là-dessus, en fait. C'est tapis, et c'est, si ça marche pas, je me crame, en fait. C'est un peu ça, quoi, j'ai l'impression. Et du coup, la complémentarité de Leïla, eh ben, en fait, ça amène. En fait, Fred disait qu'ils étaient à la recherche d'adultes, de modèles pour se construire. Et en fait, la vraie trouvaille aussi, pour moi, elle est l'un dans l'autre, en fait. Leïla, pour Lee, devient. Aussi une certaine forme de stabilité, un regard sur lui qu'il a jamais eu, et ça change tout. Du coup, ouais, c'est vraiment un truc que j'adore dans ce personnage-là, c'est le parcours qu'il a, en fait, de partir vraiment d'attitude de véritable trou de balle, hein, faut le dire, hein, qui dit des trucs vraiment aberrants.
Et, c'est poétique.
C'est poétique, tout à fait.
Non, parce que par exemple, dans la série des trucs qu'il voudrait faire, il voudrait devenir macro. Mais comme il. Et donc, les macros ont des putes. Et parce qu'il a trouvé. Il a fait une étude de marché, il a vu qu'il n'y avait pas de macro là où il habite. Mais il dit, comme moi, je suis le stag, je suis le cerf, j'aurais pas des putes, mais j'aurais des biches. Et alors, il part sur un grand délire comme ça, voilà. Et évidemment, il essaye d'emmener du monde dans son idée, mais personne ne mise dessus. Et voilà, enfin, il va aller de déconvenu en déconvenu. Et effectivement, il faut que Leïla soit là pour le guider. Ouais, on s'aperçoit que les figures parentales, elles sont toutes assez, alors à la fois touchantes, mais en même temps très, très démissionnaire, quoi. Mmh. Donc il faut qu'il se trouve.
Bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à l'émission.
On peut encore citer Alexandrine quand même, ouais, sur la Céno et Charlie Vergniaud, voilà, qui nous ont fait une très très belle Céno, et Manu Bordier qui a assisté à la mise en scène et qui a fait les lumières, et puis toi nous qui nous a filé un bon coup de main. Voilà, c'est une belle équipe, parce que Grabuge, c'est ça aussi, quoi. On est une grosse équipe, et si vous avez aimé Lune Jaune, vous aurez l'occasion d'aller voir Dunsinane à la Comédie de Picardie. C'est encore une plus grosse équipe.